C'est R22, tout le monde, antenne Jeff Clack.
Never. Oh, m'intéressait aussi, c'est que donc il y a un disque qui est vendu avec la revue, mais comment existent les pratiques sonores au-delà de la revue dans sa dans leur diffusion? Est-ce que l'idée aussi de produire du son au sein de la revue, c'est pouvoir aussi faire exister des modalités de publication de la revue qui soient autres, comme aujourd'hui on a écouté collectivement un son, c'est une autre expérience que de l'écouter chez soi. Est-ce que ça c'est intégré à l'idée d'avoir ces formats dans la revue? C'est aussi une question un peu à vous deux, mais à Ferdinand aussi, à toi. L'idée aussi que la dimension publication, qui là va exister sous un objet papier, annuel, est aussi un espace qui peut être élargi par des contenus qui peuvent être même extraits. Je sais qu'aussi il y a des choses qui sont publiées en ligne. Voilà. Peut-être à travers en fait cette question du son, parler de l'espace de publication de la revue. Juste pour dire aussi qu'il y a un autre micro sans fil qui est dans l'espace et qui est un peu le micro de qui souhaite. Du coup, on a tous les micros là. Donc j'allais vous dire qu'on allait partager une discussion. En fait, non, parce que c'est nous qui avons tous les micros. Mais dans une certaine hypothèse idéale, il y a un micro qui va. Donc faites-nous signe comme ça, on peut vous le donner.
Eh ben, non, mais c'est vrai que quand on a construit la revue de Jeff Clack au début, eh ben, c'était plutôt des gens à la toute base qui venaient du papier et de l'écrit, et que, en fait, parce qu'on connaissait des gens, des amis qui faisaient du son, et il y a eu cette proposition de fabriquer aussi des propositions sonores, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient documentaires ou qu'elles soient des enquêtes ou qu'elles soient des fictions ou même des chansons sur plusieurs numéros. Le passage sur le troisième numéro où il y a eu ce gros travail collectif où là vraiment c'était assez impressionnant parce qu'ils se sont mis à une douzaine pendant un an à travailler sur une seule pièce, et c'était vraiment un gros coup d'éclat parce que on pensait pas que ça pouvait arriver à l'intérieur de Jeff Clack, une telle. C'est comme si, en fait, dans l'écrit, on avait fait un seul papier de 250 pages écrit à 24 mains. Là, ils ont fait une seule pièce et c'était vraiment un gros boulot. Et là, j'ai l'impression que sur le dernier numéro, il y a eu un mix des deux, justement. Un mix, genre, des trucs plus personnels, puis des trucs un peu plus collectifs. Et moi, c'était presque une question interne, mais qui peut parler à d'autres gens ici. C'est. Voilà comment toi, Kabiria, qui est arrivé, je crois, au numéro d'avant, et qui est là sur ce numéro-là, justement, cette proposition du CD en tant qu'objet, plutôt que, comme tu disais, il y a la R22, il y a plein de radios aujourd'hui sur Internet, et qu'est-ce que ça. Voilà, est-ce que ça a un sens, ou est-ce que ça pourrait ne pas être sur un CD? Est-ce qu'il y a un truc ajouté là-dessus, ou pas du tout? Enfin, c'est plus un truc, du coup, moi, qui m'intéresse d'avoir ton avis, et que je pense peut-être intéresser d'autres gens. Est-ce qu'il y a un truc spécial à fabriquer un CD, ou est-ce que ça, on pourrait s'en passer par exemple dans Jeff Clack ou pas, quoi?
Je crois le truc spécial à éditer un CD, bah déjà c'est l'objet, et l'objet en soi c'est je valide après mais c'est aussi le, par rapport à une web radio qui peut diffuser des sons et des pièces, c'est la cohérence de l'ensemble. Et donc, ces pièces-là, du coup, quand on édite un CD, je crois qu'on réfléchit vraiment, bah, du coup, à la succession des différentes pièces, aux transitions. Pourquoi, enfin, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment, ouais, au travail éditorial qu'on peut avoir sur la revue. Et de se dire, quelle transition, pourquoi est-ce que cette pièce-là vient en début ou en fin, et comment on alterne les choses. Et ça, c'est hyper intéressant comme travail à faire.
En fait, juste, il semblerait qu'il y ait quand même un parallèle entre le CD et la revue, qui sont des objets finis, contrairement à tout ce qui peut être mis en ligne et qui sont à l'infini. Enfin, on peut mettre en ligne des pièces sonores à l'infini, tout pendant qu'il y a de la place et tout ça. Et en fait, il me semble que sur le CD comme sur la revue, la question est la même, c'est pourquoi produire des objets qu'on tient dans les mains avec un nombre de pages ou un nombre, voilà, une contenance définie à l'avance, et pourquoi ne pas toujours faire plus et à un moment donné s'arrêter, quoi. C'est un peu le.
Après, c'est une manière de voir, de considérer que que seule la dimension comme ça physique va composer un espace. Hein. La pratique curatoriale, moi c'est mon métier, c'est de fabriquer des espèces de formes de possibilités de lecture qui pourraient être combinées tout à fait autrement, mais qui dans un instant donné sont proposées comme ça. Pour nous vous accueillir ce soir, pour moi c'est une proposition de publication de la revue, non pas de sa présentation, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais de sa publication, c'est-à-dire on va avoir écouté un son sur le CD, mais pas tout le CD. On va découvrir des aspects de la revue, mais pas toute la revue. Et de ce fait, en fait, cette possibilité combinatoire, c'est aussi une manière de peut-être d'aller au-devant de l'idée d'une infinité qui serait une forme d'accumulation sans fin et sans borne, tout en n'étant pas forcément, comment dire, arrêté dans l'objet physique. Parce que moi, je pense que la question que pose une revue et le CD, et tout ça, c'est la question de le rendre public, donc de ce qu'on appelle la publication. Et se rendre public, il peut parallèlement avoir plusieurs opérations qui ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, qui sont des opérations de publication. Un auteur qui va lire un texte publiquement ne remplace pas son livre, en fait. Il fait une autre opération de publication où son corps intervient, où le contexte dans lequel intervient, où des éléments émotionnels interviennent. Et donc, du coup, on est simplement dans des propositions qui sont... Moi qui suis éditeur de formation, je suis beaucoup dans un monde où il s'agirait de tenir des chapelles et des églises dans des pratiques qui, quelque part, si on crée des connivences dans ce qu'on a envie de faire dans la société, c'est simplement, en fait, il y a un rapport au plaisir, hein, une revue qui fait 250 pages avec un beau papier, avec une maquette. Voilà, quand on est tombé dans cette espèce de pathologie du livre, quand on est ce qu'on appelle un grand lecteur dans la librairie, c'est-à-dire que les gens ils t'accueillent bien parce que tu dépenses beaucoup d'argent, eh ben, tu sais qu'il n'y a pas que des bonnes raisons d'avoir des livres, mais il y a des plaisirs. C'est aussi chouette de pouvoir tenir l'objet au sens, mais presque pas pour une raison qui est autre qu'une raison d'odeur, de physicalité de la chose, mais qui n'est pas tant une qualité qu'un désir personnel de pratique. Je trouve que le CD peut être pensé comme complètement obsolète aujourd'hui. Pourquoi pas un 33 tours, pourquoi pas... Non mais, tu vois, pourquoi pas... C'est quand même, en termes d'objet, c'est quand même vachement plus intéressant qu'un CD. De pouvoir faire un... C'est un... Non mais bon, ça rentre pas dans le truc. Ça marche pas, un 45 tours, mais c'est vrai que c'est un peu court. Mais... Non mais en tout cas, tu vois, si on parle de l'objet, on peut aussi défendre des choses plus... Peut-être, je sais pas ce que vous pensez, la question aussi du désir. Quoi.
Par rapport à l'infini, même une proposition curatoriale, elle a besoin à un moment donné d'un cadre... clos, si elle a besoin d'un espace, je veux dire, le CD ça peut être un white cube, ça peut être un endroit, juste un truc de possible, et puis. Qui
va être un cube blanc.
Oui, on fait une traduction, donc c'est le monsieur a dit cube blanc.
Même pour vous, c'est incroyable, elle a besoin d'un espace dans lequel.
Oui, mais ce que je pense, c'est pour vraiment relier du coup entre ce que vous dites et puis exactement ce que fait la revue, une proposition curatoriale en général, elle peut être comme ce marabout bout de ficelle, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a des espaces qui peuvent paraître spécifiques à des moments donnés, mais en fait, c'est toujours le bout de quelque chose de méta et de plus grand. Moi, je peux vous considérer, par exemple, ça fait 17 ans que je programme ici. Et donc, en fait, c'est avoir vu toutes les soirées de la première à la dernière qui est la proposition. Donc, c'est une chose impossible. Et à la fois, chaque moment est une chose singulière. Donc, c'est comme la revue qui reprend à chaque fois ou comme le principe des morceaux. Des singularités, évidemment, mais qui ne sont pas des espaces... Moi, je ne crois pas au White Cube avec l'idée de neutraliser le contexte. Pour moi, le contexte joue. On a écouté un morceau dans un contexte. Si on l'écoute dans la cuisine avec son...
On ne sait pas ce que c'est un white cube.
Donc voilà, la question du cube blanc. Non, donc on dit dans le monde de l'exposition de l'art contemporain qu'il y a des lieux qui sont des white cubes, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer un espace neutre blanc, donc un cube blanc dans lequel on va installer des choses. Et ici, vous voyez que le cube n'est pas blanc, en fait, en plus ici, donc c'est un peu... C'est déjà, il est bleu et marron. Donc et ce n'est pas un cube. Et je veux dire, par là, c'est en tout cas l'expression white cube rapporterait à l'idée d'un espace potentiellement neutre dans lequel on pourrait énoncer un propos. Ce serait comme une chambre d'écoute pour écouter du son, c'est-à-dire qu'on n'a aucun autre son parasite, on n'a rien d'autre que ce qu'on est en train de faire, qui est un idéal qui ne peut pas être atteint. Mais en plus, moi, je pense que c'est le cas, je pense, dans Jeff Clark, et c'est le cas de choses qui nous intéressent ici. C'est au contraire comment les choses sont affectées par leur contexte qui nous intéresse. Donc, ce n'est pas une proposition qui veut être tout terrain, mais au contraire, qui est sans cesse affectée par comment on la reçoit et comment on la... Et c'est vrai que la question que je posais sur les objets, je me dis, il y a des usages après, hein, parce que moi je trouve que assez beau avec les objets, c'est qu'après, on va l'écouter sur des chaînes stéréo différentes, on va l'écouter en faisant des choses différentes, donc on est en train de rejouer la pièce aussi. Il y a peut-être ça aussi dans le, je sais pas, parce que c'est vrai que la physicalité renvoie après à un outil d'écoute. Après, tout le monde peut pas écouter des CD aujourd'hui, vous savez.
Mais en tout cas, pour revenir sur la notion de plaisir et de désir, je crois que la question de enfin, le fait de travailler en collectif sur l'écriture radiophonique, c'est un grand plaisir et qui est finalement assez rare dans le travail du son. Et oui, je sais que c'était une des motivations de plusieurs personnes qui participent à ça, le fait de pouvoir écrire en collectif sur une pratique qui est finalement assez solitaire.
C'est aussi ça qui fait donc lien avec les pratiques du son et les pratiques de la revue, tu penses aussi, Ferdinand. L'idée aussi s'ouvre une possibilité de fabriquer ensemble, quoi, avoir une pratique en tout cas qui se déplace un peu de simplement chacun son objet.
Ben, moi je suis ni dans l'art, ni dans l'art contemporain, ni dans le son. Mais je suis un peu dans l'écrit, et ouais, en tout cas, je sais pas, le cube blanc, page blanche, ça me parle un petit peu dans ce truc de prise de risque, en fait, et de flip, en fait, et de terreur, et de d'angoisse par rapport à la production. Et est-ce qu'une production a du sens? Est-ce qu'elle a un sens social? Est-ce que c'est pas juste pour se faire plaisir à son petit soi qu'on est en train de produire? Et voilà, c'est vrai que Jeff Clark, que ce soit dans le son, que ce soit dans l'image, que ce soit dans le papier, ce qu'on essaye de faire, il me semble, c'est ce truc de fabriquer en même temps qu'on produit des choses qui nous parlent à soi-même. On essaye de fabriquer du collectif qui parle à plus que soi-même, en fait. Et donc, il y a cette prise de risque permanente qui, à un moment donné, se solidifie dans l'objet. Peut-être pour ça que je posais cette question-là aussi sur le CD et sur... Le fait qu'on ait choisi ce papier, c'est que, contrairement à Internet, ou presque même à une exposition, là, si on met une toile et qu'à un moment donné, sur un mur, et puis qu'à un moment donné, on se dit « Oh, merde, j'ai oublié de mettre ça », ou je sais pas quoi, ou machin, bah, il peut changer la toile. Nous, c'est vrai que là, une fois qu'on a ce truc-là, le CD et la revue, ben, on peut pas reprendre tous les numéros puis barrer un mot, ou on peut pas reprendre les CD et changer un son parce que d'un coup, oh merde, j'ai mal fait l'enchaînement et tout ça. Donc c'est une prise de risque, c'est-à-dire que c'est une étape dans nos vies, en fait, une espèce de rituel de production et d'échange avec les autres qui fait qu'à un moment donné, on prend un risque, on pose ça sur la table, on dit ben voilà, ça c'est ce qu'on a pu faire de mieux, et c'est soumis à critique, c'est soumis à plein de choses, et en même temps, alors que sur Internet, voilà, on peut changer le son, on peut dire « Ah non, ça n'a pas existé », et puis en fait, on met la bonne version, et voilà, donc il y a ce truc-là...
Tu peux revenir sur cette question
prise de risque collectif.
De prise de risque, que tu l'as dit à plusieurs reprises, et ça
qui fait... Qui est en lien avec le numéro.
Ouais, ce que ça veut dire, c'est que ça fait aussi écho au numéro, peut-être qu'on peut revenir sur cette question de prise de risque. Moi, j'étais parti sur un autre endroit qui était l'endroit du plaisir, qui n'est pas forcément que solitaire, d'ailleurs... au passage, mais en tout cas d'assumer des désirs et du plaisir. Mais par contre, là, il y avait cette question-là de la prise du risque que j'aimerais peut-être qu'on puisse expliciter, peut-être aussi en venant sur le numéro. En quoi c'est une prise du risque de publier un magazine?
Je voulais déjà parler de ça avant que tu poses la question. Alors là, tout d'un coup, j'utilise ta question pour quand même parler de ça. Mais... peut-être que c'est une prise de risque parce que c'est une, ce numéro, mais comme les autres, et sur la production d'une revue papier, moi j'ai l'impression que tout ça c'est une histoire d'alliance, d'alliance provisoire ou de, à un moment donné, de dialogue ou de conversation provisoire entre certaines personnes qui à un moment donné décident soit de produire l'objet ensemble, donc de s'engager pendant un an sur les réflexions du thème. sur toutes les tâches administratives, se préoccuper des finances, se préoccuper de toutes les soirées de présentation, se préoccuper du lien avec les auteurs, se préoccuper d'un tas de trucs. Donc c'est toutes ces personnes-là, c'est les personnes qui écrivent, les auteurs qui sont parfois les mêmes, mais parfois non. C'est les personnes qui vont imprimer la revue. Donc c'est les imprimeurs, donc tous les gens dont c'est le métier et qui par ailleurs ont un autre quotidien, mais qui à un moment donné, travaillent aussi sur cette revue. C'est les personnes qui vont faire le CD, qui vont produire le CD. C'est le tout est une histoire d'alliance qui parfois fonctionne et parfois ne fonctionne pas, ou en tout cas fonctionne tant bien que mal. Et en fait, ces personnes-là s'allient à un moment donné parce qu'elles ont toutes des envies et des désirs et ont envie de peut-être prendre le risque, plus ou moins, mais de produire cette revue. Après, spécifiquement sur cette prise de risque, je ne sais pas trop si c'est un peu une manière de voir les choses un peu trop de manière philosophique, mais il n'y a pas une vraie prise de risque parce qu'en fait, on produit un truc qui nous plaît et on le fait juste parce que ça nous fait plaisir. Et ni pas plus. On est tous bénévoles, en fait, dans le collectif. Et à un moment donné, si ça nous fait chier de faire cette revue, on quitte. Et c'est pas grave.
Mais c'est pour ça que j'étais venu sur le terrain du plaisir qui écarte pas toutes sortes d'autres risques personnels. Mais je voulais comprendre l'enjeu du risque, peut-être là, d'un point de vue dans les matériaux. Est-ce que c'est aussi une manière d'expérimenter des choses à écrire, d'aller sur des sujets qu'on maîtrise moins et que l'espace de la revue est un espace d'apprentissage? Je posais vraiment la question vraiment pour situer l'endroit de ce qui se prend comme risque au sens où comme recherche, quoi. Parce que le terme du risque, je voulais juste laisser de le positionner. C'est travailler en non spécialiste sur un texte, c'est prendre s'engager dans quelque chose qu'on va faire à plusieurs alors qu'on n'est peut-être pas habitué à le faire. Voilà, je voulais essayer de faut appuyer juste derrière. Ouais.
Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça dans le collectif que j'envisage cette question-là, c'est que pour moi, la prise de risque, elle est aussi au moment de décider ensemble de la thématique. C'est-à-dire que, en fait, c'est même... moi, je suis arrivé en cours d'élaboration de la revue, j'ai pas travaillé sur le premier numéro, mais dès le début, l'idée de la contrainte, c'était pour nous obliger un peu à aller voir ailleurs, quoi. Nous obliger à nous déplacer. Et moi, une des choses que j'ai en tête à chaque fois qu'on doit décider à partir du mot... quelles sont les questions qu'on va tirer, c'est de se demander comment la question vient nous traverser, comment elle nous met un peu en... comment elle nous fait prendre des risques. Moi, si on commence la revue en sachant ce qu'on va dire à partir du thème, à l'avance, ça ne m'intéresse pas. J'ai vraiment besoin que la thématique qu'on va travailler vienne traverser le collectif et chacun à l'intérieur de ce collectif pour qu'on soit surpris aussi de ce qui va sortir de cette thématique. Donc voilà, moi, ce serait là que je situerais, en tout cas, le risque qui m'importe dans cette revue. C'est.
Ferdinand, tu veux ajouter quelque chose ?
Non, moi, je pense peut-être peut-être essayer à partir de là d'enchaîner sur la suite avec peut-être une dernière question à Capiria sur le thème du jeu. Pourquoi elle est partie sur cette pluralité de jeux à travers le monde et de. Et voilà comment elle a fabriqué un peu le truc qu'on a écouté là au début, comment ça s'est passé, parce que c'est quand même un travail hyper riche qui vient de plein d'endroits différents, de plein de prises de son. On a l'impression que c'est un seul objet, en fait c'est hyper, hyper varié. Donc pourquoi déjà partir là-dessus et donc, pourquoi tu as pris ce risque-là, si on veut revenir sur le truc? Et puis comment ça s'est fabriqué sur le thème de l'enfance et pourquoi sur la question du jeu qui n'est pas... parce que le jeu traverse la revue, mais l'enfance ne traverse pas la revue. Il y a aussi les jeux vidéo qui sont plus adolescents ou adultes. Il y a aussi le PMU qui est très adulte. Il y a les jeux sexuels. Il y a plein de choses en fait dans la revue. Donc pourquoi toi, par exemple, tu as voulu partir sur l'enfance et comment ça s'est fabriqué en fait cette question-là?
Je me souviens plus trop, mais j'imagine que c'est après. Une des premières AG où ça a dû être évoqué la question du jeu dans l'espace public. Et je crois que ça a fait tilt avec des enfants qui jouent juste à côté de chez moi au cricket. Merci, Livia. sur la place. J'habite à Bruxelles, à Molenbeek, et il y a des enfants qui jouent au cricket dès qu'il fait beau. Du coup, j'avais très envie de les enregistrer. Et puis, petit à petit, je me suis imaginée une narration avec des sons d'ambiance de jeux qui jouent dans l'espace public et pas dans un espace confiné qui soit l'école ou les aires de jeu. Et d'imaginer ces différentes sonorités. Et alors j'ai demandé à plein de personnes qui font de la prise de son, qui font de la radio, de m'envoyer des rushs, ce qu'on appelle des rushs, des enregistrements comme ça bruts de sons qu'ils auraient pu prendre un peu partout dans le monde, d'enfants qui jouent dans l'espace public, voilà, dans la rue, sur la plage. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont fort touchée. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de composer de façon assez instinctive, en fait. C'est un truc que j'avais jamais testé, de vraiment, pour le coup, travailler que sur l'esthétique, enfin, sur vraiment ce que le son, un son qui parle à un autre son, et de comment ces choses-là s'assemblent. Et c'est comme ça que l'écriture s'est faite petit à petit. Voilà, mais effectivement, du coup, il y a des sons d'un peu partout, de Turquie, de Grèce, de Belgique, de France, du Maroc, d'Algérie, du Cap-Vert. Voilà. Si ça répond.
Je pense que c'est une assez bonne réponse, hein, moi je trouve. Non, mais en tout cas, merci. Moi, peut-être qu'on va continuer en fait à entrer dans le numéro avec cette histoire du jeu, peut-être avec Ferdinand, avec ce texte en fait sur une espèce d'historique comme ça de l'ère de jeu. Parce que ce soir, donc, on voulait aussi traverser par des tout petits morceaux ce que la revue, comme tu le soulignais, déploie. Parce qu'on sera peut-être, on a peut-être l'occasion d'en reparler, mais la manière dont ça a été évoqué déploie à partir d'un mot des possibilités d'interprétation et de lecture qui vont créer une constellation de sens. Là, ce soir, on voulait rester aussi au plus près de cette question d'abord introduite par cette pièce de l'enfance, et aussi de la question des aires de jeu, pour terminer la soirée avec Vincent Romani qui est avec nous. Peut-être c'est à toi, Ferdinand, pour traverser ce texte-là que tu as proposé sur une espèce de traversée historique de la question de l'aire de jeu.
Oui. L'idée c'était de partir d'un environnement urbain quotidien et familier qui sont ces aires de jeu qu'on voit un peu partout. Au début, je pensais juste écrire sur qu'est-ce que c'est que les normes et qu'est-ce que c'est que cette tristesse en fait de reproduction industrielle des formes de jeu des gamins dans les villes. Voilà. Et donc d'avoir un discours très actuel. Et puis en fait, je me suis pris dans l'histoire en fait de comment sont nées les aires de jeu. Et comme je disais, dans la revue, il n'y a, à mon avis, pas assez d'enfants. C'est chouette qu'il y ait justement la pièce sonore de Cabiria. Puis c'est chouette que Vincent Romani soit là, parce que peut-être que lui, il pourra plus nous parler tout à l'heure de cette présence de l'enfant et de ce truc primordial autour du jeu qui est... que c'est un des premiers outils, un des premiers rapports au monde de l'enfant, et qu'ensuite nous on essaye de revenir à ça. Et en fait les aires de jeu, très vite c'est venu là-dessus, c'est sur comment à un moment donné dans l'histoire il y a eu ce besoin d'encadrer le jeu en fait. C'est-à-dire, je pense que pendant très longtemps, alors j'ai aucune connaissance historique et précise sur la question, mais je pense que pendant très longtemps, les gamins jouaient et puis on s'en foutait un petit peu, quoi. Genre, ils faisaient leur jeu dans leur coin et puis dès qu'ils étaient productifs, hop, on les mettait au boulot et puis on n'en parlait plus. Et qu'il y a eu un moment dans l'histoire où il a fallu se préoccuper du jeu des enfants et en faire quelque chose, en fait. En faire quelque chose, c'est-à-dire valoriser... le jeu de l'enfant, ne pas laisser l'enfance et le côté ludique à soi-même et l'insérer dans le modèle social et dans le Voilà, donc à travers des lieux spécifiques, et ces lieux spécifiques, en fait, et c'est une des parties, moi j'ai plus parlé de ça, une des parties de ce qu'on voulait discuter ce soir, c'est le travail politique, en fait, ce qu'aurait pu dire Foucault, la technologie de pouvoir qu'il y a eu, que j'ai découverte un peu au hasard et de manière un peu incertaine aussi, au cours du 18e et surtout 19e siècle, sur comment, à un moment donné, il y a eu une vraie évolution technologique de... faire jouer les enfants et pourquoi on va faire jouer les enfants en fait. Et on va pas faire jouer les enfants juste comme ça a été un peu le cas à certaines périodes. Donc il y a eu d'abord une canalisation de l'énergie, qu'est-ce qu'on va faire cette énergie qui ne travaille pas et qui ne fait rien et comment on va faire pour s'en débarrasser en gros, c'est-à-dire être tranquille, comment on va être peinard avec les gamins, on va les faire jouer, on va les faire... faire autre chose, machin. Et puis dans un deuxième temps, il y a une vraie valorisation, c'est-à-dire comment on va les éduquer, les domestiquer et les dresser, presque, à certains moments, grâce au jeu, en fait. Et là-dedans, l'ère de jeu comme lieu où se cristallisent ces enjeux de pouvoir et de socialisation, en fait, a une place très importante, et notamment aux États-Unis. Pendant notamment la fin du 19e siècle, il y a toute une histoire des playgrounds qui n'est pas simplement un divertissement justement pour se débarrasser des gamins, mais qui petit à petit devient une manière d'américaniser en fait une nation qui est essentiellement composée d'immigrés. Donc, de gens qui ne sont pas rassemblés autour du même idéal patriotique et de la même histoire culturelle, en fait, et qu'il va falloir harmoniser à un moment donné. Et là-dedans, l'ère de jeu va jouer un rôle très important. Et ça se voit, moi je l'ai vu à travers des personnages, en fait, et pas simplement à travers des lieux que sont les aires de jeu, mais à travers plusieurs personnages qui ont joué des rôles... qui, je pense, dans l'histoire, sont souvent mineurs, d'autres plus majeurs, mais qui ont joué des rôles et ont fait vraiment un travail qui s'est affiné au cours du temps sur comment on va transformer le jeu en éducation, puis en dressage. Donc, il y a notamment un gars qui s'appelle Jacob Riis, qui, lui, a commencé par donc un immigré danois qui arrive aux États-Unis, qui commence par galérer dans la ville de New York et qui, grâce à ses années de galère, en fait, finit par écrire des articles pour le New York Tribune et qui, en fait... venant d'une famille bourgeoise et ayant connu les années de galère, finit par transformer ces années de galère en espèce de témoignage de la rue et notamment de certains quartiers très populaires aux États-Unis et qui se lie avec Theodore Roosevelt qui va être le prochain président des États-Unis. Et ces deux personnes-là qui ont un travail social et un travail d'enquête sociale dans cette Amérique naissante vont petit à petit participer à l'émergence des playgrounds. Et les playgrounds, ça va être très vite le lieu où on va sortir les gamins des rues, en fait, et on va arrêter de laisser les gamins à eux-mêmes et on va les encadrer dans ces espaces qui sont visibles pour tout le monde, qui sont visibles pour la communauté, qui sont visibles pour... les flics, qui sont visibles pour les voisins, qui sont visibles pour les familles, et qui va faire que le jeu, en fait, ne va pas être des jeux à base de brigandage ou de petits larcins ou de potentielle délinquance, mais va être encadré dans des jeux qui vont avec un superviseur, donc avec quelqu'un qui encadre tout ça et qui rapporte aussi les éléments de jeu et qui va, en fait, petit à petit fabriquer une espèce de d'éducation à la citoyenneté américaine. Et jusqu'à tel point que, quelques années plus tard, je fais très vite parce que je ne veux pas être trop long sur l'article, je ne veux pas le répéter en gros, mais il va y avoir des cités de jeux, donc des cités dans le terme citoyen, hein, où il y a des tribunaux autogérés, des commissariats autogérés, des assemblées autogérées, tout ça pour un effort d'éducation qui vont au final quoi, faire quoi préparer à la guerre, c'est-à-dire préparés à l'esprit patriotique de la guerre de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et qui vont du coup, par le jeu, permettre en fait un esprit à la fois citoyen, mais aussi patriotique, américain, et qui vont en fait voilà, être une vraie opération de police et d'éducation républicaine, comme on dirait aujourd'hui. Et tout ça passe par les aires de jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça prépare à la guerre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment en Europe, il y a un contre-mouvement de ça qui se fabrique, qui va être, on va se soigner de la guerre, c'est-à-dire on va, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on va utiliser l'art de jeu de manière complètement différente, avec les aventures playgrounds, c'est-à-dire des espaces de jeu qui sont plus les toboggans, les échelles horizontales, etc., mais plutôt des espaces de terrains vagues, et notamment en Angleterre, des terrains bombardés qui vont être réappropriés par les gamins, et on va en fait utiliser les enfants pour soigner le traumatisme collectif de la guerre et pour en fait permettre aux enfants de reconstruire un nouveau monde à travers le jeu. Donc là, on passe dans une deuxième phase, enfin une autre phase de grossière, hein, parce que voilà, de l'histoire des aires de jeu, qui va être premier temps préparation à la guerre, donc endoctrinement, deuxième temps soins et réparation du traumatisme. Et de tout ça, on arrive petit à petit, mais ça a été très 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 long, à ce qu'on vit aujourd'hui de la normalisation, de tout ce qu'on voit, des espaces, des terrains de jeu qui sont complètement tristes. Mais voilà, moi ce que je voulais raconter, c'était cette histoire, comment en fait on peut traverser une histoire de l'industrialisation, une histoire des conflits mondiaux, une histoire des traumatismes et du soin collectif à travers la question du jeu. Et c'est vrai que là-dedans, c'est très politique, l'accent que j'ai mis sur le papier. Et il y avait ce petit manque, et c'est pour ça que, voilà, que je voulais que Vincent Romagny soit là ce soir, parce qu'en fait, dans toute cette histoire-là, il y a un accompagnement permanent, en fait, du côté de l'urbanisme, du côté de l'art architectural, et en fait, du côté de toutes les questions qui touchent comme je l'ai dit, à l'émancipation, ou comment les enfants peuvent nous donner des idées et comment ils peuvent réinvestir des espaces oubliés ou des espaces traumatisés, qui passent par l'art et la pratique artistique, en fait. Et c'est vrai que quand j'avais rencontré Vincent au cours de mes recherches, il avait été hyper prolixe, parce que lui, il fait une thèse là-dessus, et hyper... moi, je suis là, genre, j'ai travaillé là-dessus pendant un mois, donc je suis vraiment un branque sur la question. Et lui, je voyais que voilà, il maîtrisait bien le sujet, et notamment en fait sur tous ces liens que j'ai pas pu traiter dans l'article, qui sont pas si éloignés que ça avec toute cette histoire politique, en fait, de comment les artistes ont pu à la fois s'en saisir ou s'en dessaisir à travers l'histoire, parce qu'une aire de jeu, au final, c'est aussi une fabrication de couleurs, de représentations, et ça, je pense que Vincent va en parler de l'enfance, comment on conçoit l'enfant à travers les âges, et de formes, en fait, donc de formes abstraites, concrètes, figuratives, non figuratives, etc. Et donc, il me semblait que, voilà, si je peux passer la main.
Je voulais juste ajouter à cette question, mais tu l'as évoqué à la fin, c'est vrai que En contre-forme de ces objets que tu as observés, et dans la même période, on va dire dans le 18e tardif, il y a la constitution et puis les constitutions successives de la catégorie même d'enfants. Tu disais, ça manque d'enfants dans la revue. En fait, on a l'impression que c'est depuis très longtemps que ça existe, les enfants. Non, mais en fait, c'est une catégorie qui, à un moment donné, va se fonder dans le 18e, où Arlette Farge la raconte très bien pour le Paris 18e, où l'enfance n'existe pas, en fait. À cet âge-là, les gens, ils sont petits, c'est des hommes petits. C'est un peu le fantasme de Nicolas Sarkozy à l'époque, de dire, on a 3 ans, donc on est un petit criminel, après on a un moyen criminel, après on a un grand criminel, mais on n'a pas cet espace-là qui est séparé des questions, en fait, du monde adulte. Il y a simplement, t'es enfant, au sens, tu n'es pas encore productif, mais tu n'es pas considéré comme enfant en tant que catégorie, qui va peut-être, les aires de jeu vont aussi en contre-forme montrer à chaque fois comment on rejoue et comment on introduit aussi dans une économie globale la catégorie enfant, mais qui est une catégorie à laquelle va s'additionner après l'adolescence. On va même la perfectionner, quoi. Lorsqu'on va travailler à 12 ans jusqu'au 19e, il n'y a pas d'adolescence en tant que telle. T'es petit, puis après tu travailles, quoi. Et, non, mais c'est intéressant parce que je pense que la constitution de la catégorie, qui a quelque chose de je pense, sensible, généreuse, montre aussi qu'il y a des enjeux à constituer une catégorie de l'enfance. Autant dans la protection, mais à la fois aussi dans la capacité de réfléchir à ce en quoi elle peut être productive, comme tu l'as évoqué. Ne pas la laisser dans le flou, la constituer. On voit aussi aujourd'hui qu'elle est même une cible constituée, donc il a bien fallu l'inventer. Alors c'est drôle de dire ça, mais bon, il a fallu inventer les enfants. Donc peut-être que Vincent, c'est intéressant maintenant que peut-être on poursuive la soirée avec ce moment sur les aires de jeu un peu plus important, un peu plus développé. Ouais. Tu le mets ici, c'est bien.
Juste vas-y. Mini pas introduction, mais transition. Dire que c'est important pour nous dans la revue, on essaie de faire, on n'y arrive pas systématiquement, mais des fois on y arrive. Que pour les présentations, on ne soit pas juste effectivement d'en raconter ce qu'il y a déjà dans le numéro, mais essayer de prolonger la revue par une invitation, une discussion ou une rencontre qui aurait pu être un article de plus. Et ce que Olivier nommerait pratique curatoriale, moi qui viens du cinéma, je nommerais plus montage, mais comme une
réalité supplémentaire qui viendrait s'additionner et dans le meilleur des cas essayer de constituer quelque chose en regard de ce qui est déjà écrit et de ce qui existe dans la rue. Voilà, donc de penser ces rencontres comme des articles supplémentaires.
Merci. Yes. Alors, hop. Donc, effectivement, Ferdinand fait partie des gens qui me contactent pour me poser des questions sur les aires de jeu. Alors, généralement, j'ai ma Kalachnikov qui est prête, parce que j'en ai ras le cul des journalistes qui veulent pas faire leur boulot et qui veulent que je leur fasse leur boulot. Et puis, c'était formidable, parce que Ferdinand avait beaucoup, beaucoup travaillé, donc il m'a appris plein de trucs, donc c'était super. Du coup, on s'est dit que comment dire ? Donc effectivement, donc moi je travaille sur la question des aires de jeu depuis quelques années. C'est le sujet de ma thèse, si un jour je la finis. Et je travaille pas sur la question politique en tant que telle. C'est-à-dire que je m'intéresse à la question de savoir pourquoi, à une certaine époque, il se trouve que des artistes ont fait des aires de jeu. Chose qui semble couler de source maintenant, mais qui n'était pas du tout évidente, d'autant plus qu'effectivement, il y a un type de structure qui existe depuis la fin du 19e siècle qui n'a pas changé pendant près de 70 ans. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est d'où vient cette structure. Donc, c'est l'image stéréotypée de l'ère de jeu. Donc, c'est le toboggan, le bac à sable, le jungle gym, et j'en oublie toujours une, la balançoire, donc, que je vais appeler les 4 S, donc le sandbox, slide, swing, et j'en oublie toujours un quatrième. Donc c'est les 4 S. Et il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ces formes changent complètement, et il y a véritablement un changement de paradigme. Je suis en thèse, je peux employer le mot paradigme. Mais il y a vraiment un changement de paradigme qui fait qu'on considère qu'un artiste peut faire une aire de jeu. Et je me suis rendu compte que c'était lié justement à la façon dont on avait considéré l'enfant de façon différente. Donc effectivement, Olivier rappelait que la catégorie d'enfant est une catégorie qui n'est tout sauf naturelle, qui est évidemment constituée. Donc ça, c'est quelque chose qu'a mis en évidence Philippe Ariès. J'oublie l'ouvrage, mais voilà, c'est l'ouvrage qui fait date. C'est un historien autodidacte que Foucault admirait beaucoup, même s'il était vraiment de droite, et qui a écrit l'histoire de la constitution de l'idée d'enfant. Et du coup, moi, je m'intéresse à la question de savoir voilà, comment l'enfant s'est trouvé à véhiculer de nouvelles images, de nouvelles représentations, de nouvelles valeurs qui sont concomitantes avec le tournant au XXe siècle. Donc c'est Picasso qui s'intéresse au dessin d'enfants, Paul Klee, Kandinsky, etc. Et puis, je considère que c'est la queue de comète de ce changement, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc effectivement, pourquoi est-ce que c'est après la Deuxième Guerre mondiale ? Parce qu'il faut reconstruire des villes, donc du coup, on se repose la question de l'ère de jeu. En fait, ça commence à changer après la Deuxième Guerre mondiale, mais ça change véritablement dans les années 70. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une nouvelle figure qui est le concepteur de l'ère de jeu. Donc ça paraît rien, mais Auparavant, il n'y avait pas de concepteur d'aire de jeu, puisque pour faire une aire de jeu, il suffisait de mettre un toboggan, un bac à sable, etc., etc. Donc la question du design des aires de jeu ne se posait pas. Enfin, le terme de design n'existait pas. D'ailleurs, on parlait d'esthétique industrielle. Et effectivement, c'était produit industriellement. Comme le rappelait Ferdinand, il y a eu ce nouveau modèle, l'Adventure Playground, qui arrive pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est développé après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a considéré à tort, et moi je l'ai répété comme beaucoup de monde dans le bouquin que j'avais fait, que c'est à ce moment-là que naissent les aires de jeu. Or, ce n'est absolument pas le cas, puisqu'il existait des bacs à sable, des balançoires. Mais du coup, ces concepteurs d'aires de jeu que je suis allé interviewer, alors ils commencent à mourir, il faut que je me dépêche pour tous les rencontrer, mais ces gens-là ont, pour des raisons X ou Y, commencé à faire des nouvelles formes. Il se trouve qu'ils étaient soit artistes, soit influencés par l'art de leur temps, soit ils n'en avaient rien à faire. Donc moi, j'arrive en disant, ah, ben, vous avez été influencé par le minimalisme, et puis ils me regardent, c'est quoi, on ne connaît pas, bref. Et du coup, ces gens-là apparaissent, qui sont des concepteurs d'aires de jeu. Mais bon, je vais en venir au but. Et à cette époque-là, il y a une expérience qui est menée au Moderna Museet à Stockholm, qui est absolument passionnante. Donc, c'est les images qui passent derrière moi. Et elle est menée par Palle Nielsen. Alors, Palle Nielsen, c'était un étudiant en école d'art, en architecture, à Copenhague, et qui a réalisé des aires de jeu dans la rue, sauvage, sans demander les autorisations aux parents ni aux communautés. Et il est venu les faire à Stockholm. Et puis ensuite, il allait en faire à Stockholm. Et puis il a eu l'occasion de rencontrer Pontus Ulten, donc qui était le directeur du Moderna Museet. Donc avant qu'il ne fonde le Centre Pompidou à Paris, et il a réussi à le convaincre de faire une aire de jeu dans un musée, dans le musée. Pontus Ulten a accepté à la condition qu'il finance tout lui-même. Donc ça, ce sont les images qui défilent. Donc ça a été le nombre de visites le plus important. Il y a eu quelque chose comme 50 000 visiteurs en 2 mois. Jamais le Moderna Museet n'a réussi à faire un tel chiffre d'entrée. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il y avait une dimension complètement politique de sa démarche. Palle Nielsen, ensuite, a quitté le monde de l'art, a été militant, il a fait beaucoup de choses. Et il avait une théorie très intéressante. Donc il expliquait que l'ère de jeu n'est une œuvre d'art que pour ceux qui ne jouent pas. Donc ça, c'est très important parce que justement, il explique que si on joue, ça n'est pas une œuvre d'art. Ça n'est une œuvre d'art que si on regarde l'ère de jeu. Je vais me permettre de vous lire le texte qu'il avait écrit à l'époque parce que c'est très très clair. Alors, l'idée est de créer une structure pour le jeu créatif des enfants. Donc il reconnaît que le jeu est créatif des enfants. Donc c'est véritablement ça le changement de paradigme. Donc l'idée est de créer une structure pour le jeu créatif des enfants. Des enfants de tous âges poursuivront le travail sur cette structure. Donc il parle de travail. À l'intérieur comme à l'extérieur, dans tout type de jeu, ils seront autorisés à manifester leur capacité à s'exprimer. Donc c'est aussi l'idée de spontanéité de l'enfant. Le jeu est l'exposition. L'exposition est le travail des enfants eux-mêmes. Il n'y a pas d'exposition. Donc on a une espèce de dialectique très surprenante où en fait, à la fois c'est une exposition, mais ce n'en est pas une pour ceux qui contribuent à la constituer. Ce n'est une exposition que parce que les enfants jouent dans un musée d'art. Donc ça c'est très intéressant. Il faut que ce soit dans un white cube pour que ce soit une œuvre d'art. Donc ça c'est la définition institutionnaliste et contextualiste de l'œuvre d'art. Il n'y a d'œuvre d'art que dans une structure artistique. Ce n'est une exposition que pour ceux qui ne jouent pas. Voilà pourquoi nous l'appelons un modèle. Peut-être deviendra-t-il le modèle d'une société répondant aux souhaits des enfants. Peut-être les enfants nous diront-ils tant de choses sur leur monde que cela deviendra aussi un modèle pour nous. Donc en fait, on quitte la dimension de l'art pour dire le jeu des enfants, ça va permettre de fonder une société pour les adultes. Nous l'espérons. Voilà pourquoi nous laissons les enfants présenter leur modèle à ceux qui travaillent avec les enfants ou qui en ont la responsabilité des conditions préalables que l'on donne aux enfants à l'extérieur dans le monde des adultes. Nous croyons que les enfants peuvent exprimer leurs propres besoins et qu'ils veulent autre chose que ce qui est prévu pour eux. Donc, il va construire l'aire de jeu. Alors, ça, c'est la deuxième version qu'il a fait dans une ville dans la banlieue de Stockholm. Mais donc, il va construire dans le hall principal du musée une aire de jeu. Donc, ce n'est pas un adventure playground. Donc, il connaissait la catégorie adventure playground qui avait été justement inventé 20 ans auparavant au Danemark par Sorensen, mais il dit que ce n'est pas une adventure playground, puisque les enfants ne construisent pas les éléments avec lesquels ils vont jouer. Donc il y a un certain nombre de tours qui sont déjà construites. Il y a une piscine de mousse au milieu. Il s'était fait prêter 200 masques de Mao et du général de Gaulle. Il y avait des platines vinyles avec des disques que les enfants pouvaient passer comme ils voulaient, avec des enceintes qui débitaient à fond les disques qui sont très vite complètement rayé. Et il y avait des outils où les enfants pouvaient utiliser des clous, des marteaux, etc. Et puis il y avait eu tellement de succès qu'ils ont dû installer des éléments de jeu pour que les enfants, pour les enfants, les parents qui accompagnaient les enfants qui faisaient la queue. Donc l'aire de jeu a dépassé le musée, elle était à l'extérieur. Et puis il avait inventé un espèce de dispositif où effectivement les enfants étaient observés, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun adulte qui jouait. C'est dommage que ça n'avait pas été filmé, et pour avoir de l'argent, il avait fait passer ça pour une recherche sur la psychologie de l'enfant. Donc, alors, est-ce qu'il y croyait ? J'arrive pas trop à savoir. Donc voilà, donc les enfants sont à l'extérieur, les parents sont à l'extérieur, il n'y a que les enfants au milieu, et puis il avait mimé le dispositif de l'observation psychologique des enfants que, par exemple, Piaget mettait en place à cette époque-là à Genève. Donc en fait, il y avait des caméras, donc les enfants pouvaient bouger les caméras, et c'était retransmis en direct sur des écrans à l'extérieur. Alors il n'avait pas eu assez d'argent pour avoir des bobines, donc rien n'a été filmé ni enregistré, mais c'est comme si les enfants s'organisaient eux-mêmes. Et avec cette idée que en fait, on va laisser les enfants s'exprimer et qu'à partir de ça là, on va en déduire des principes qui pourront permettre de constituer le principe d'une société meilleure, d'une société différente. Donc en fait, j'expliquais que Paul-Nielsen, après cette expérience, a quitté le monde de l'art. Il n'y est jamais complètement entré à cette époque-là. C'était plutôt vraiment un protestateur, un militant. Et c'était une expérience pour voir, voilà, c'était scientifique, en fait. C'était scientiste. C'était, on va regarder les enfants, on va les observer, et puis on va en tirer des principes pour imaginer une société. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'exposition, donc, il l'appelle le modèle pour une société qualitative. Et il y a cette idée de qualitatif qui est très surprenante, dont je me demandais vraiment d'où ça venait. Parce que du coup, l'idée de qualité, c'est lié en psychologie à la question de la psychologie de la forme, et ça permet de... Ouais. J'aurais dû couper le wifi. Et ça engage des questions de compréhension de l'enfant. Donc en fait, d'une certaine manière, il a confondu deux conceptions très différentes de la psychologie de l'enfant. On aurait une conception positiviste, psychologisante, où on peut observer l'enfant et puis on peut relever des patterns qui vont revenir. Et puis en même temps, il y a un dispositif qui relève plutôt d'une école psychologique opposée à Piaget, qui serait celle de la psychologie de la forme, la psychologie de la gestalt. Et donc ça, c'était en 68. Donc ensuite, il réussit à revendre. Il y a eu quelques péripéties. Au bout d'une semaine, ça a été évidemment interdit par le poste de police qui était à côté du musée, alors qu'il avait eu l'autorisation du service de police de la ville de Stockholm. Donc l'aire de jeu est fermée. En un week-end, avec des amis activistes, ils mettent plus ou moins en conformité. Alors du coup, ils rajoutent tous les drapeaux rouges. Du coup, ils rajoutent non à la guerre au Vietnam, etc. Et puis, un certain nombre de slogans politiques sont peints en gros sur les murs, et c'est ouvert, et ils affirment encore plus une dimension politique au jeu des enfants. Ensuite, l'exposition ferme, il réussit à revendre tous les éléments à une autre commune, Westeras, et c'est à cet endroit-là, donc c'est ici que l'aire de jeu est reconstituée, et puis évidemment elle n'a pas duré longtemps parce que des parents se sont plaints et ça a été fermé. Et à la suite de ça, il quitte le monde de l'art parce que, explique-t-il, alors à l'époque et toujours maintenant, c'est ce qu'il pense encore, il explique que, alors moi j'aime beaucoup cette idée-là, c'est l'idée que l'art c'est un phénomène bourgeois pour classe moyenne, mais ça il n'en démord pas, l'art c'est vraiment un réflexe de bourgeois pour les classes moyennes. Donc ça, c'était en 68. Et en 99, il y a un jeune critique d'art qui vient frapper à sa porte. C'est Lars Banglarsen, qui a travaillé au MACBA, Musée d'Art Contemporain de Barcelone, qui est un des curateurs de la dernière biennale de Sao Paulo, qui vient le voir et qui s'intéresse aux pratiques artistiques collaboratives des artistes des années 70, dans ce cadre de quasiment d'un intérêt pour une esthétique relationnelle. Grosso modo, il va le voir et puis il redécouvre complètement le modèle. Et puis, le modèle est réactivé. Donc ça va être réactivé, ça va donner lieu à une œuvre d'art d'abord. Donc en fait, Palle Nielsen donne toutes ses archives au Musée d'Art Contemporain de Barcelone. Donc ses archives, ce sont ses 177 photos qu'il agence dans un double diaporama. Il y a une bande-son parce qu'il a fait des captures sonores de l'exposition. Et puis, il y a des documents d'époque qui sont présentés. Et ça, c'est une œuvre. Ça fait œuvre. Donc tout d'un coup, à 70 ans passés, il se met à faire de son expérience, il se met à en faire une œuvre d'art. Et c'est ensuite, il y a une publication, c'est publicisé. Donc le MACBA, en fait, en échange de l'œuvre, publie un ouvrage dont le texte est rédigé par Lars Banglarsen pour expliquer voilà qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Et le modèle est réactivé. Donc il a été réactivé. Alors je crois que c'était en 2011 dans le cadre de la Nuit Blanche Place Stalingrad. Donc j'étais allé voir, donc c'était pas ça du tout. Hein. Il y avait plein d'adultes. Enfin c'était la colo ou le centre aéré. Enfin les enfants s'amusaient beaucoup. Et puis à minuit c'était les ados et les adultes qui venaient sauter dans les piscines de mousse. Mais je trouvais que c'était pas exactement la même chose. Et puis il y a une vidéo sur le site. Alors je sais pas si c'est la mairie de Paris ou Eval Baran, enfin les sociétés qui s'occupent de monter la Nuit Blanche. Et il y a une vidéo dans laquelle Palle Nielsen explique en quoi consiste le modèle. Et là, il explique, c'est un modèle pour les enfants. Alors c'est très intéressant, parce qu'au début, ce n'était pas un modèle pour les enfants, c'était un modèle pour les adultes. Et en 2011, ça devient un modèle pour les enfants. Vous savez, il s'agit d'entrer ici et d'avoir d'autres sensations, de profiter et s'amuser. Donc... Le propos est complètement édulcoré. Je veux montrer que l'art, que les œuvres peuvent être utilisées donc, par les enfants. Je veux montrer que l'art, que les œuvres peuvent être utilisées. C'est une installation, mais ce n'est vivant que quand les enfants y jouent. C'est très important pour moi. Mon installation est un cadre pour les enfants. Alors c'est très intéressant parce que c'est l'activité des enfants qui génère l'œuvre d'art. Alors qu'auparavant, justement, quand les enfants jouaient, ce n'était pas une œuvre d'art. C'était uniquement, il n'y avait d'œuvre d'art que quand on était passif et qu'on regardait les enfants actifs. Et en fait, il y a eu complètement un changement au niveau de la compréhension que Palle Nielsen a de son activité, où l'art était une activité passive, à distance, donc c'est le modèle vraiment complètement classique de la contemplation, séparation, sujet-objet. Et puis là, tout d'un coup, l'œuvre d'art, c'est quand on est en plein dedans, quand on participe. Donc ça... j'avais un peu identifié ces deux modèles et j'étais un peu très perturbé, donc je suis allé le voir. Je suis allé le voir à Copenhague et en banlieue de Copenhague. Et puis je lui ai demandé, voilà, je lui ai posé la question de. Alors j'ai pas osé lui demander directement la différence, parce qu'en fait il était très très fier. Il y a plein de gens qui venaient le voir. La veille il y avait un curateur brésilien. Enfin c'est genre c'est la fête quoi. Et puis il m'explique que c'est lui qui a inventé le. On parlait du White Cube. Il m'explique qu'il était le premier à briser le White Cube. Alors j'étais très ennuyé parce que j'avais une traductrice, je disais mais le White Cube ça n'existait pas en 68, ça a été inventé en 76. Alors mais c'est pas grave, il était le premier à briser le White Cube. Pas seulement, il avait été le premier à inventer l'esthétique relationnelle. Donc c'était juste du génie à l'état pur. Ce qui était très surprenant, c'est qu'il revendiquait complètement d'avoir... C'est-à-dire qu'avec une même forme, l'ère de jeu, le champ sémantique et significatif art avait radicalement changé. Et c'est là que, d'une certaine manière, il y aurait un espèce de jeu politique, en fait, enfin, un nœud entre art et politique sur la question de savoir qu'est-ce qui fait art et comment est-ce qu'on comprend l'enfant. Parce qu'évidemment, de l'un à l'autre, ce qui a changé, c'est qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et puis qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Donc, en fait, il y a véritablement un changement. Et du coup, moi, quand je l'ai rencontré, donc je lui ai demandé s'il pouvait m'expliquer quelles étaient les lectures qu'il avait à l'époque. Parce que je n'arrivais pas à comprendre cette idée de qualité. D'où ça vient cette idée que le lieu est un lieu qualitatif, parce qu'il n'en parlait plus dans la version refaite en 2011. Ah oui, donc l'œuvre a été présentée à la Nuit Blanche, et elle a été acquise par le musée de la ville de Aachen au Danemark. Et elle fait partie de la collection permanente, elle est présentée en permanence, donc je ne suis pas allé la voir. Mais le musée a publié un ouvrage à cette occasion-là, et les images ont complètement changé, puisqu'évidemment, les enfants n'y sont pas tout seuls, ils sont en permanence avec les parents, de même qu'il y avait des accompagnateurs dans la version présentée place Stalingrad. Et du coup, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette idée de qualité. Et en fait, il m'a expliqué que ça venait de André Gortz, fondateur du Nouvel Ops. André Gortz avait publié en 64 Stratégie ouvrière et néo-capitalisme. Ça a été traduit en 67 en suédois, et le danois et le suédois sont des langues très, très proches. Et dans cet ouvrage, André Gortz, qui était un réformiste, donc, se posait la question de comment changer la société, avec l'idée qu'on ne va pas en passer par la dictature du prolétariat, il faudrait trouver un moyen terme. Il faudrait trouver un moyen terme. Et André Gortz explique... Alors, je vais vous retrouver la... Voilà, donc André Gortz explique que le socialisme ne repose pas uniquement sur le pouvoir des classes des travailleurs, mais aussi sur un nouveau type de relation des hommes entre eux, un nouvel ordre de priorité, un nouveau modèle de vie et de culture. Donc en fait, il faut trouver un nouveau modèle pour arriver au communisme, puisque la dictature du prolétariat, ça ne marche pas, on ne peut pas passer par là. Et André Gortz explique, étant entendu que les besoins dans une société développée ne sont pas seulement quantitatifs, donc c'est les besoins des biens consommables, mais aussi qualitatifs. Besoin d'un développement libre et multilatéral des facultés humaines, besoin d'information, de communication, de fraternité, besoin d'être libéré non seulement de l'exploitation, mais aussi de l'oppression et de l'aliénation dans le travail et dans le loisir. Et Gortz continue, il n'existe pas, il ne peut pas exister actuellement de société socialiste sur laquelle le mouvement ouvrier des pays de capitalisme avancé puisse prendre modèle. Donc en fait, André Gortz n'a pas réussi à trouver le modèle, mais Palle Nielsen l'a trouvé, c'est l'ère de jeu. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, Palle Nielsen réalise un espèce de switch, c'est-à-dire qu'il va télescoper deux modèles en disant on va observer le jeu des enfants, donc ça c'est le terme qu'il emploie, en essayant de mettre en évidence des patterns de comportement, c'est-à-dire trouver des séquences de comportement qui seront répétées, et on va les adapter pour une société. Donc du coup, c'est pour ça que, en fait, pour Palle Nielsen, le musée était uniquement une excuse. Le musée était considéré, donc en fait, effectivement, il avait quasiment inventé le white cube, parce qu'en fait, il prêtait au musée les qualités de neutralité, enfin, les qualités supposées de neutralité du white cube. Donc en fait, c'est un lieu dans lequel, finalement, on peut faire une expérience scientifique. Et dans ce lieu qui est de l'art, enfin, il s'en fiche que ce soit de l'art, il se trouve que l'art a cette qualité de proposer des lieux qui vont purifier les relations sociales, qui vont mettre tout à distance, et du coup, c'est un laboratoire scientifique. C'est pour ça que je parlais de Piaget. Il a véritablement utilisé le musée comme si c'était un laboratoire à la Piaget, en disant on va observer le jeu des enfants et à partir de ça, on va tirer des principes pour imaginer les principes pour constituer une société. Donc finalement, c'est une idée qui a inspiré beaucoup de révolutionnaires. C'est une idée aussi qu'il a tirée de ses lectures de Paolo Freire, donc ce militant, je ne connais pas très bien Paolo Freire en fait, donc je ne vais pas en parler, je ne vais pas m'attarder, mais qui avait théorisé la question de la pédagogie de la libération, donc l'idée que finalement, en observant les enfants, on va trouver des moyens pour se libérer complètement. Et en fait, Palle Nielsen a fait une espèce de télescopage entre une situation qui ne serait pas analysable, parce que justement, les réactions des enfants ne sont pas toujours les mêmes, ne se répètent pas, et finalement, il avait développé, sans en être conscient, cette conception idéologique de l'enfant comme pure spontanéité. Donc en fait, l'idée de l'enfant, ce serait une origine qui n'aurait pas de genèse. Mais l'origine n'ayant pas de genèse, lui aurait cherché à trouver une genèse par ses moyens pseudo-scientifiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'art, il explique, ça ne l'intéresse toujours pas maintenant. Mais bon, c'est quand même pratique, il a vendu l'œuvre... Sa femme a une mauvaise santé, il a pu s'acheter une voiture, alors c'est quand même bien qu'il ait vendu la pièce. Mais du coup, c'était un exemple, je finirai juste là-dessus, c'était un exemple où justement, tout en maintenant cette idée selon laquelle l'œuvre d'art, ce serait pour les bourgeois, classe moyenne, finalement, l'aire de jeu, c'était un cheval de... Comment dire, l'art, le musée, était un cheval de Troie. Et avec le temps, finalement, il a trouvé que le cheval de Troie était assez beau. Donc c'était une œuvre d'art. Voilà, je vous remercie.
Vincent, moi, je voulais réagir peut-être à... Quoi, du coup, poursuivre, pour aller dans ce sens-là. Il y a une question là-bas.
Je voudrais juste sur la question de la spontanéité par rapport à l'installation, parce que ça, pour moi, ça n'a aucune évidence. Alors je voudrais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ce qu'il pensait de ça. En tout cas, comment il articulait par rapport à l'installation.
Alors il... Il ne parle d'installation que dans la deuxième version. Et l'idée de spontanéité, c'est qu'effectivement, les enfants ne sont pas corrompus par la société. C'est une idée très naïve. C'est une idée incroyablement naïve.
C'est un peu étonnant par rapport à la complexité de ce
qui
est mis en
place. Oui, mais à aucun moment, il ne va chercher à expliquer comment est-ce qu'il conçoit l'enfance. Enfin, dire, il est... Alors moi, j'étais là, je disais, mais est-ce que vous avez lu Piaget? Est-ce que vous avez lu Keller? Est-ce que vous avez lu Kafka? Alors, comme tous les concepteurs d'art de jeu avec qui j'arrive, avec ma liste, ma bibliographie de thésards, ils me disent, non, je ne les ai pas lus, ces gens-là. Je ne les ai pas lus. Enfin, il avait quand même quelques ouvrages dans sa bibliothèque que j'ai pu consulter. Il y avait surtout Gortz, qui se rappelait avoir lu. Mais c'est un préjugé qu'il partageait. C'était pas une conception personnelle, et c'est un préjugé qui est partagé énormément par énormément de gens. Enfin, ce qui fait qu'on pense qu'effectivement que l'enfant c'est pas une catégorie constituée, c'est une catégorie historiquement constituée, et que l'enfant comme spontanéité c'est très récent. L'enfant. Oui, mais l'enfant n'est regardé comme spontané que depuis le début du XXe siècle. Si on a fait l'ère de jeu. Alors coupez-moi parce que j'en ai pour deux heures. Mais on a fait l'ère de jeu, les 4S, si le modèle à ce point n'a pas changé pendant 70 ans, c'est parce que l'enfant, à cette époque-là, était considéré comme tout sauf spontané. C'était parce que l'enfant avait un développement nécessaire. Donc la théorie psychologique qui expliquait le pourquoi ce dispositif a été constitué, c'est ce qui s'appelait la théorie de la récapitulation. Alors l'adage qui résume cette théorie, c'est l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Donc l'idée, c'est que le développement de l'enfant reprend le développement de l'espèce. Et ça, c'est une théorie qui a été mise en place... pas par une personne, c'est un mélange de Darwin, de Spencer, de Haeckel, de Lamarck. Et c'est l'idée que le développement de l'enfant prend un, comment dire, est tout sauf spontané. L'enfant repasse par toutes les étapes par lesquelles est passée l'espèce humaine. Et si on met un enfant dans un bac à sable, c'est le petit poisson qui sort de l'eau. C'est vraiment ça. Et si on met l'enfant dans un jungle gym, c'est le singe. Et si ensuite, à 7 ans, on considère plus ou moins qu'il a l'âge de raison, c'est parce qu'il a atteint soit l'époque des Lumières, soit l'époque de la Renaissance. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut lui apprendre des règles du jeu.
Et en même temps, sur la question de la pureté, moi, ça me fait penser à ces expériences où
beaucoup plus anciennes, où des gens éloignaient un enfant à sa naissance de tout contact humain, le mettaient dans une pièce pour voir s'il allait spontanément parler latin.
Ça, c'est Marivaux, je ne suis pas sûr que ça ait été fait, mais oui.
Oui, en tout cas, cette idée de pureté de l'enfance, de qu'est-ce qui viendrait moins à la culture, qu'est-ce que ce serait.
Je crois que l'idée de pureté est plus récente qu'on ne le croit. On est encore nous-mêmes affectés comme les Palais-Nielsen par cette idée que l'enfance est un moment de pureté, de perfection, de quoi que ce soit. Ça ne l'était absolument pas. Et effectivement, c'était le choc de découvrir les enfants sauvages qui font qu'effectivement, on découvrait que des enfants qui n'avaient pas été... Quand ont été découverts les enfants sauvages, la question, enfin pour les scientifiques, c'était de démontrer que cet enfant était débile, qu'il était handicapé, qu'il était idiot. On n'y voyait pas le début de l'humanité. Mais du coup, pour revenir à cette question de spontanéité, je pense que même la question que vous posez, parce que ce n'était pas la question de Marivaux exactement, mais c'est aussi un effet d'optique c'est aussi un effet d'optique rétrospectif que nous, on projette. Parce que l'enfant était tout sauf si... tous les scientifiques au milieu du 19e siècle faisaient des monographies où ils observaient leurs enfants. Et Darwin, qui a eu beaucoup d'enfants, faisait des monographies sur chacun des enfants. C'était pas seulement qu'il voulait raconter à tel âge tes dents ont poussé, à tel âge t'as prononcé ça. C'est qu'il espérait véritablement, dans le développement de l'enfant, remplir les séquences historiques préhistorique, immémoriel, qu'il n'arrivait pas à remplir par sa théorie de l'évolution, la marque du transformisme et Darwin de la sélection naturelle. Donc en fait, c'était véritablement le développement de l'enfant, on savait par quelles étapes ça passait. Et c'est pour ça qu'on les mettait sur une aire de jeu, parce que ces étapes, on ne pouvait pas passer outre. Donc autant les passer le plus rapidement possible.
C'est le niveau biologisant, on va dire,
c'est une théorie biologique, oui.
Qui n'est pas exempt de morale, hein, qui porte une morale en soi. Mais il y a un deuxième segment très fort moral sur l'innocence, en fait. C'est-à-dire spontanéité ou récapitulation, c'est des choses très vitales, on va dire. On est encore dans le registre biologique. Et quand on parle d'innocence ou de régénération ou de récréation...
Il y a une connotation morale.
Là, tout d'un coup, on rentre... Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve aussi... Enfin, je ne sais pas si toi, t'as rencontré ça dans tes trucs, mais ce truc d'innocence, en fait, l'enfant est innocent, comme si un enfant de la guerre ne prenait pas dans la gueule toute la société ambiante, en fait. Comme si, lui, il était une espèce de petite fleur au milieu du champ de ruines et que... Et on va tout de suite, ben, j'ai l'impression, hein, la culture contemporaine va tout de suite placer l'enfant comme innocent et extrait des turpitudes du monde. Et là, du coup, il y a un truc moral, en fait.
Ouais. Enfin, alors, je ne suis pas sûr qu'on considère que l'enfant est innocent et moral. On considère que l'enfance, comment dire, n'est plus le moment clé d'un développement qui sera continu et progressif. Donc en fait, on n'est plus dans le cadre d'un moment, d'une conception par étape du développement de l'enfant. Et ça, c'est la psychanalyse et les pédagogies alternatives. Justement, ce que dit Freud, c'est que justement, l'enfant est affecté par la guerre. Donc autant il va être affecté par des choses négatives que par des choses positives. Et c'est à partir de ce moment-là que se constitue l'idée de l'enfant comme paradis perdu et comme innocence et comme endroit où on peut décider de vouloir retourner. Chose qui n'était pas le cas dans le cadre de la biologie du développement. Et du coup, on a une espèce de double temporalité qui se croise, et les paradoxes de Paludan-Nielsen reviennent à ça, c'est que soit on pense l'enfance comme le début d'un développement progressif et continu, donc ces promesses que ça ira mieux, ou alors le nouveau schéma que met en place la psychanalyse, avec l'idée qu'on aura beau s'avancer, on s'éloignera toujours du paradis perdu. Et dans le premier, comment dire, les conséquences psychologiques de ces deux théories, pour la première, ça va être la naïveté, et pour la deuxième, ça va être la nostalgie, avec l'idée qu'il faut toujours chercher à revenir derrière. Et je me demande dans quelle mesure cette idée d'innocence n'est pas corollaire à cette idée de nostalgie. Parce que au XIXe siècle, l'innocence est, comment dire, il faut éviter de pervertir, mais on n'est pas dans Rousseau à dire « c'était mieux avant ». Enfin, cette idée d'innocence est très complexe, en fait. J'avoue, ça, c'est mon explication. C'est voilà, l'explication que j'aurais donnée, mais je suis pas sûr de.
Moi, je voulais juste donner une autre entrée sur la question de ce paradoxe dont tu parles sur Paludan-Nielsen, et peut-être qu'on peut le lire autrement, c'est-à-dire peut-être qu'on peut le regarder plutôt comme un acteur qui est finalement beaucoup plus fixe dans sa pensée, mais un décor qui change.
Oui.
Moi, j'aurais tendance à considérer que ce qui lui arrive et ce que ça témoigne, ce récit que tu fais, de la double définition de la même chose. C'est un changement radical, en fait, de ce que c'est que l'art, entre un moment où, quelque part, il y a une possibilité de le situer. Finalement, on est dans cette question de la culture classique, mais peut-être qu'on pourrait y revenir, en se disant qu'on sait où c'est, on sait où ça se passe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un espace de simulation... à un espace de simulation généralisée, la nuit blanche. C'est-à-dire qu'en gros, la société elle-même est absorbée par l'extension infinie de ce qui est art. absorbant la politique, absorbant la possibilité de la séparation de ce qui va être d'autres catégories, toutes les catégories comme des sous-catégories de ce qui pourrait faire art. Donc une espèce de simulation générale. Donc lui, finalement...
Ce que Rancière appelle le régime représentatif.
Voilà. Et donc du coup, quelque part, lui, il ne fait que... Il redit la même chose, mais c'est la chose qui a changé, pas tant son... Je ne pense pas que lui change d'avis, en fait. En réalité, la capacité à contenir l'art dans un espace donné qui va être donc une problématique bourgeoise, on va dire, qu'elle est quelque part et donc réservée à certains, l'explosion de ces cadres et son expansion devient une espèce de dystopie, en fait. On se dit, tiens, il faut que ce soit partout, et une fois que c'est partout, c'est bien plus terrible que quand c'est quelque part en particulier, et qu'on peut le situer dans une catégorie d'expérience, à côté de l'expérience politique, l'expérience sensible, d'autres régimes d'expérience. Là, il y a l'idée que toutes les expériences sont des sous-régimes de l'expérience esthétique. Et là, je trouve qu'il y a un côté triste, fatalement, dans ce qu'il fait, puisque quand ça devient un espace du tout, ça joue plus, parce que quelque part, paradoxalement, ce qu'il fait à cette époque-là a une idée d'utopie parce qu'elle est contenue, alors qu'on aurait l'impression à cette époque-là que c'est qu'en faisant exploser qu'on atteint la question de l'utopie. Alors qu'il la vit, finalement, lui, il a une expérience particulière qu'on ne verra pas tous, c'est qu'il vit dans l'utopie qu'il a projetée, et comme il n'y a plus de distance avec l'utopie, ça devient effectivement une forme de fatalité. Mais quelque part, lui, il ne ment pas sur ce qu'il dit. Il redit la même chose, mais l'objet lui-même s'est transformé.
Oui, quoi, et il maintient toujours cette idée. Pour moi, c'est un peu le paradoxe à essayer de comprendre. C'est quelque chose à quoi j'essaie de donner sens. Là, le bouquin, c'est que... Enfin, ce que je vous explique, j'ai développé un peu plus clairement dans un article que j'ai publié dans la revue Marche, publié par l'Université de Paris 8. Mais parce qu'il continue à penser qu'il dit toujours l'art est toujours un phénomène de classe moyenne pour... Enfin, un phénomène bourgeois pour classe moyenne. Et la question, c'est... Comment fonctionne encore maintenant l'idée qu'on a de l'art qui finalement est toujours bourgeoise? Et c'est avec l'idée, par exemple, que moi j'essaie de voir à certains endroits, au niveau des pratiques curatoriales, quand la notion d'aire de jeu est mise est invoquée, c'est qu'on va considérer par opposition à cette époque-là que parce que c'est aire de jeu, c'est forcément œuvre d'art. Donc maintenant, l'aire de jeu est devenue le modèle de l'œuvre d'art. Donc du coup, il y a eu des biennales, il y a eu des expositions qui s'appellent aire de jeu, qui étaient plus ou moins bien ou intéressantes, dont certaines me semblent très problématiques, parce que par exemple, pour citer la biennale de Rennes, il y avait une exposition qui s'appelait aire de jeu, et qui avait repris... Donc c'était, voilà, pourquoi est-ce qu'une exposition serait une œuvre d'art, et pourquoi est-ce qu'on l'appelle... Comment dire ? Pourquoi est-ce qu'une aire de jeu serait une œuvre d'art, et pourquoi est-ce qu'on appellerait une exposition aire de jeu ? Parce que finalement, on retombe dans le modèle très classique de c'est un endroit dans lequel il y a des objets. Donc du coup, l'aire de jeu, comment dire, le modèle le plus périmé de l'aire de jeu, est invoqué par l'art contemporain en disant ça a propriété de faire art. Mais qui a une extériorité qui est quand même le 19e siècle. Et que voilà, c'est ce qui me semble très problématique.
Oui, moi je voulais dire quelque chose, mais alors je sais pas si ça. Ça coupe un peu cette histoire de qu'est-ce que c'est son évolution, lui, en tant qu'artiste, dans ce qu'il a tenu comme propos sur ce qu'il a fait, mais ça revient plutôt à cette expérience qu'il y a eu à ce moment-là, en 68, c'est ça ? Et je m'interroge sur cet endroit qui était quand même un peu riche et la frontière qui se dessinait entre l'endroit de... d'une exposition qui n'est exposition que pour ceux qui la regardent, que ceux qui sont interdits de la pratique de l'œuvre. Et pour moi, du coup, ça me parle beaucoup du parcours qui est interdit d'une œuvre qui se pratique et que le visionneur d'art, celui qui expérimente l'exposition, c'est celui qui est vraiment fermé dans le dire, quoi. Et c'est comme Deligny dit, on est rempli de la suffisance du langage. Et j'ai l'impression que c'est cet endroit-là qu'il avait réussi à articuler d'un parcours possible dans le monde que l'enfant aurait à nous apprendre. Enfin, et qui est dans une communication directe, pas du tout comme
oui,
l'animal
fait,
et la supposition.
Fondamentalement, il met l'art de côté. Il met l'art de côté, et c'est ce qu'il continue à faire. Parce que je dis, il a quitté le monde de l'art. Effectivement, il a quitté le monde de l'art. Mais en fait, il a continué à faire des œuvres. Et il a continué à faire des œuvres pour des hôpitaux psychiatriques, pour des dispensaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne le pensait pas comme art. Donc il est très ennuyé parce qu'il se rend compte que ça peut être intéressant. Et Lars Bang Larsen a hésité à exposer les pièces qu'il a réalisées ensuite à Sao Paulo parce que justement, il a fait des œuvres très très belles dans une institution pour enfants aveugles. Et moi, c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée que finalement, il y a un endroit où il y a une pratique artistique qui peut exister en tant qu'art, mais qui se fout de savoir si c'est de l'art ou pas. Parce que ce qui est important, c'est que c'est esthétique et que ça a une effectivité dans la vie des usagers, que ce soit des enfants dans telle institution pour aveugles, que ce soit pour des handicapés mentaux dans tel autre hôpital psychiatrique, etc., etc. Donc en fait, c'est le moment où finalement, il faut se débarrasser de l'œuvre d'art. Moi, c'est pour ça que Palle Nielsen, je mets au pinacle, parce qu'il a cette espèce de volonté, pas purificatrice, mais à la Wittgenstein, thérapeutique, en fait. Se débarrasser des fausses questions pour aller regarder les vraies questions. Et il a participé ensuite, alors je vais demander ce qu'il avait participé, parce que du coup à un moment dans sa vie, mais 20 ou 30 ans après, il a aménagé des plaines de jeu qui n'avaient absolument rien à voir avec ça. Et donc je lui avais demandé s'il avait, parce que quand même ça a été beaucoup repris, Pontus Sultan a hésité à le refaire pour le centre Pompidou, ça. Alors quand je lui ai appris, il avait les boules parce qu'il aurait vraiment beaucoup aimé. Mais Pontus Sultan, du coup, il y a eu le projet de groupe ludique aux Halles en préfiguration de la construction du centre Pompidou. Mais Palle Nielsen, justement, avait été invité, alors il n'a pas réussi à retrouver les documents, à un colloque à Cerisy-la-Salle de spécialistes de l'éducation. Mais là, à nouveau, il ne rentrait pas dans les clous parce qu'il avait mangé des space cakes et que sa communication a été absolument catastrophique. Il était complètement défoncé. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les clous à chaque fois. Enfin, c'est une espèce de vrai punk qui fait ce qu'il a envie de faire. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est cette idée que l'art, c'est un cheval de Troie pour lui. Mais en fait, il était pas censé. Dans la première version, il n'y avait pas d'échange. Les enfants étaient observés. L'adulte, c'était comme le scientifique qui doit être le plus à distance de son objet d'étude. Donc l'idée, c'était exprimez-vous, allez-y, faites ce que vous voulez.
Il y a eu un glissement entre les deux versions, du coup, par rapport à ça.
Ben, dans la deuxième version, les enfants sont accompagnés par les adultes pour les questions de sécurité, et puis parce que l'enfant est considéré maintenant comme fragile et qu'il faut l'accompagner, de même que voilà, sur les aires de jeu, vous verrez toujours les parents avec les enfants.
Oui, moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as dit que c'était conçu comme un laboratoire qui était censé produire des déductions, mais en fait, qu'est-ce qu'il en a fait de l'observation ?
En fait, ça alors, à l'époque, il a fait ce qu'il a appelé un compendium. Donc c'était une espèce d'anthologie plutôt de donc en fait il y avait quand même toute une bardée de copains à lui qui étaient architectes, urbanistes et psychologues qui ont observé les enfants dans le projet de faire ce qu'il appelait un compendium dont il a perdu tous les exemplaires. Et en fait, il n'est pas très clair en fait sur si c'était un prétexte pour trouver des financements ou s'il y croyait vraiment qu'il pouvait trouver le modèle d'une société. Il y avait une démarche complètement utopique.
En tout cas, ça n'a pas eu de...
Non, il n'y a pas eu du tout de répercussions. Il n'y a pas du tout eu d'application ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il a fait que de la logistique pendant un mois quand même.
Moi, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça... Enfin, c'est la question de... Est-ce qu'on donne de la valeur à la parole et aux actes des enfants ou est-ce qu'on la valorise, en fait ? C'est ce que j'essayais de dire au début sur comment, à un moment donné, le jeu des enfants a été valorisé. Et qui n'est pas du tout le même mouvement que donner de la valeur au jeu ou aux paroles des enfants. Je sais, dans le deuxième numéro de Jeff Clack, on avait fait, un des meilleurs papiers de l'histoire de Jeff Clack, qui est juste des entretiens avec des gamins sur leur rapport au doudou. Et c'est très très fort parce que voilà, on n'en fait rien, il n'y a pas d'expérimentation scientifique là-dessus. À la rigueur, il y a peut-être... une petite valorisation de plaisir et de drôlerie à lire ça, mais c'est même pas un truc d'art. C'est parce que même j'ai l'impression dans cette histoire-là, il y a une espèce de spectre en fait, justement, de valorisation artistique et donc monétaire en fait derrière qui pointe le bout de son nez. Et je trouve que l'expérience en elle-même, telle qu'elle est présentée, elle est hyper chouette, c'est-à-dire Laissons voir qu'est-ce que des gamins font si jamais on arrête de leur dire ce qu'il faut faire. et voyons si on ne peut pas s'en inspirer. Ça, c'est chouette. Mais après, tout le dispositif qu'il y a autour, en fait, il capte la parole et du coup, il rentre dans des dispositifs à la fois artistiques, scientifiques, voire capitalistes, financiers, productivistes. Et c'est là où ça devient flippant, alors que l'idée de base, elle est quand même assez belle. Et moi, j'aimerais... Enfin, je sais pas, hein, je sais pas ce que les gens en pensent ici, mais l'idée de base... Alors peut-être que je suis encore emprunt de vieux Roland de sanctification de l'enfance, etc. Mais donner de la valeur à la parole de l'enfant sans la capter, ça, à mon avis, ça a encore eu une possibilité de penser autre chose, quoi.
Juste pour te poser la question, mais c'est, tu trouves pas que c'est hyper violent d'objectiver les enfants comme ça, comme dans un zoo?
Bah si. Et... D'autant plus qu'en disant ça, en même temps que je dis ça, j'ai une expérience dans le sud de la France de communes autogérées où les enfants ont eu le droit. En fait, il y avait c'était à, je crois que c'est Tresserre que ça s'appelle. Donc où la maire qui a été élue a fait des conseils municipaux où les enfants avaient autant de voix au chapitre que les adultes. Et donc sur les questions de l'eau, sur les questions de l'éducation, sur les questions des voiries, sur les questions de l'énergie, sur les questions, etc., etc. Et qu'au bout de 3 ans, le résultat, enfin la conclusion était que les enfants étaient plus réactionnaires dans l'histoire parce que, en fait, justement, en voulant objectiver les enfants en disant eux, ils sont purs et ils sont super, ils sont sympas, ils sont machin et trucs, ils se sont rendus compte qu'en fait, eux, ils étaient presque le plus emprunt de ce qu'on leur avait dit et de ce qu'on leur avait inculqué, du besoin de règles, etc. Et que ça a été catastrophique de mettre les enfants dans la politique. Voilà, et que du coup, c'était hyper compliqué ensuite de dire aux enfants « Mais non, en fait, l'eau, c'est bien qu'on est pour tout le monde et pas juste pour les copains ou des trucs comme ça. » Enfin bon.
Voilà. C'est une question de la fragilité. Sans faire de l'enfant, rentrer dans une caricature, la question de mise à l'horizontale, c'est la question aussi de la déresponsabilisation des adultes, quoi. Quel engagement on a par rapport à l'autre, et quelque part se jouent des utopies à ce moment-là qui sont assez meurtrières derrière, parce qu'on a l'impression que l'important, c'est que tout le monde ait tout à dire sur tout, ce qui devient en fait l'idée que certaines personnes qui ont expérimenté plus longtemps la vie que d'autres ne sont pas responsables par rapport aux autres. Et ça, c'est quand même, voilà, je pense que c'est aussi l'un des drames. Après, moi, je voulais être sur une autre idée, ce que tu as parlé, en fait, à un moment donné, du chef-d'œuvre et de l'œuvre d'art. Il me semble quand même, pour repositionner l'art dans cette question-là, que la question du chef-d'œuvre comme objet complet, isolé, etc., n'est quand même plus le sujet de l'art depuis assez longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire le procès d'un art dont ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je pense qu'à la rigueur, l'une des choses moi, qui me trouble à cet endroit-là, j'ai que c'est l'impression qu'il y a une assez puissante stratégie qui me ferait dire que avec Panisson, on sort de l'art, c'est vrai, mais pour entrer dans le design. Et donc, je serais quelqu'un qui ne considère pas ça comme si joyeux que ça et une si belle sortie que ça. C'est que j'ai l'impression que finalement, on est dans la question de l'instrument et que l'œuvre d'art, elle peut se défaire aussi de son rapport à la question du chef-d'œuvre en étant dans une expérience singulière qui ne cherche pas à être une expérience générique, générale, qui est du peu, qui accepte sa fragilité, des artistes qui acceptent complètement, qui sont sortis du régime héroïque, sortis... Je trouve que voilà, il y a quelque chose d'une fragilité mise en partage. Et je dirais même, moi, je me suis beaucoup intéressé à la manière dont l'art pouvait témoigner essentiellement de l'incapacité des artistes à faire ce qu'ils veulent faire, ce qui me semble la chose la plus intéressante, plutôt que la capacité, quoi. Et donc, il y a les deux mouvements qui sont concomitants, mais il me semble que là, Panisson, son discours, c'est quand même un discours de capacité, c'est quand même assez malin, parce qu'il dit, on va observer, on va tirer quelque chose, je vais le revendre là. Là, on est dans un rapport quand même d'une stratégie qui est celle, je dirais, de l'art design et de l'art, du champ économique de l'art. Mais il y a aussi un art qui ne se déclare pas sans cesse comme art, qui accepte de sortir même des catégories de l'art à des moments donnés, et qui est non-héroïque. Alors que pour moi, il y a quand même une dimension, tu disais punk, assez justement punk héroïque, quoi. C'est-à-dire, pour moi, le mauvais côté du terme anarchique. C'est-à-dire, tu vois, le côté finalement assez compatible avec le marché, quoi, avec des stratégies de marché. Et pas quelque. Et au départ, le truc apparaît comme un objet hyper fort, parce que moi, je me disais, les contraintes de sécurité, tout ça, c'est génialissime, parce que quelque part, on sait bien que c'est par un usage du design, au sens général, qu'a remplacé le terme de politique. On design des situations sociales pour faire que, par exemple, des commissions de sécurité ferment des lieux. Donc, c'est un rapport très technique à une action politique extrêmement violente. Et là, effectivement, quand il propose ça, il dit, voilà, le truc, il y a des gamins qui peuvent se casser des jambes. Quand tu regardes, t'as vraiment chaque image des possibilités. Et cette notion-là d'écarter le danger du corps de l'enfant, qui est plus tellement spécifique, parce que j'ai l'impression qu'en fait, éviter le danger aux gens, c'est devenu une chose générique, et à la rigueur, l'infantilisation générale est plutôt une question, c'est-à-dire que tous les adultes sont des enfants qui ont peur du danger, donc qui ont peur de, et donc il faut gérer leur peur d'eux, leur sentiment d'eux, le sentiment d'eux. Et quelque part, il y a une espèce de convergence vers cette question du danger. Lui, il le met en jeu en disant, ouais, quelque part, c'est potentiellement dangereux, et alors? Et ça, moi, je trouve que ça, c'est assez beau. Après, le devenir de la nuit blanche montre qu'il accepte de se fondre dans des conditions qui sont, pour moi, des gestes politiques très profonds de design, c'est-à-dire ton truc, on l'aime bien, mais c'est pas assez sécurisé, donc on fait la même chose, mais version sécurisée, qui n'est donc pas la même chose et qui n'est donc pas acceptable. Donc le fait qu'il le fasse ne fait pas, pour moi, de lui un héros qui échappe par le haut à l'art. Moi, je trouve que ça échappe un peu par le bas, quand même. Quoi. Personnellement, je trouve que c'est le type qui fait ça une fois et qui dit « Plus jamais, moi, je veux qu'on le fasse, parce qu'on ne le fera jamais comme ça. » Alors, ça a existé comme ça, point final. Là, je comprends l'idée. Et là, de se dire « Ok, alors la version sécurisée, je veux bien la rejouer. » Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il accepte. Il y a quelque chose qui
me... une voiture et sa femme était malade.
Voilà,
et...
c'est ça. Non, mais, donc, il est comme toi, il est comme tout le monde. Mais quelque part, en tout cas, il y a un geste qui est pas... qui rompt.
Je fais une distinction très nette entre les deux, effectivement.
Parce que moi, ça, je trouve ça génial, hein, personnellement. Tu vois ce truc-là, tu dis waouh, quoi. Et même à ce moment-là.
C'est la question du revenu et de l'art.
Oui, mais là.
Enfin, je veux dire, c'est cette question. Enfin, je veux dire, la boucle
dont tu parles. Ok, enfin, je veux dire, tu vois, on est à la fois dans c'est bien, mais en même temps t'es hyper moral à vouloir en faire. Tu te dis soit il est un héros et ça va, soit il se comprend avec le marché. Voilà, ceux qui se comprennent pas avec le marché, peut-être peuvent sortir. Non, non.
Il sort de l'art.
C'est qu'il a une tentative de sortir de l'art et qu'il propose un truc, par exemple, en disant moi je continue à faire de l'art, mais je dirais pas que c'est de l'art, j'en ai rien à foutre de dire que c'est de l'art, qui est une position qui ensuite. Il navigue avec ça, parce qu'effectivement, il faut payer la bagnole, ou il veut absolument une bagnole, ou sa femme est malade, ou je ne sais pas quoi, tu vois. On en arrive à l'histoire du revenu, et là particulièrement de l'art, quoi, tu vois. Ou de la pureté, on parlait de la pureté de l'enfant, tu vois, des puretés imaginées à l'enfant ou de l'innocence. Je veux dire, pourquoi il y aurait une innocence et une pureté à l'artiste ou à l'ingénieur ou tu vois.
Il y a un passage qui est intéressant que tu viens de faire là très vite, mais qui est finalement peut-être plus long à faire. C'est le passage de l'art à l'artiste, parce que du coup là on va être sur la personne. Moi en tout cas, pureté de l'artiste, comme c'est je travaille dans ce secteur depuis toujours, je crois que je l'ai jamais pensé, et plus j'ai travaillé, moins je l'ai pensé. Mais c'est pas tellement important. Par contre, moi, je trouve que quand on prononce un autre geste, ça aurait été hyper intéressant de dire le gars, il a sa bagnole, sa femme, ou juste il a besoin de vivre et qu'il n'a pas. Ouais, c'est ça. On va laisser sa femme, parce que peut-être qu'elle est pas. Non, parce qu'il disait sa femme malade, mais on laisse sa femme tranquille, c'est vrai. Et d'ailleurs, sa voiture aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que les femmes aient plus de. Non mais basta, en fait c'est pas bon, non c'est pas la même chose. C'est un peu tombé à plat. Non, c'était juste pour dire que à un moment donné, le second geste qu'il fait, il pourrait être nommé autre quoi. Il est dans un autre régime, quoi, et que c'est pas un problème moral, c'est pas un problème, mais c'est une autre chose en fait. Et juste que quelque part, c'est ça qui me semblait pas. Quand tu disais, il sortait de l'art. Moi, je suis d'accord, mais c'est pas bien ou pas bien. Il sort de l'art, c'est un autre truc en fait. Quand tu fais le truc à la nuit blanche avec les trucs, c'est un autre truc. Et que cet autre truc là, il est pas moins bien, mais il est autre quand même. Et c'est important de définir les espaces dans lesquels il se passent les choses. Que tu dis, tout ça, c'est de l'art et c'est des variations possibles de l'art. Alors cette espèce de truc étal de l'art en tout et dans toutes ses formes, je trouve que c'est bien de dire à mon œil, il fait un design. Et que c'est pas mal en fait, mais il fait un autre geste en fait, c'est un truc qui a un autre sens que la chose qu'il fait là. Tu vois, parce que les choses se sont déplacées aussi, il n'y a pas que lui. Qui
c'est plutôt lui qui est devenu le cheval de Troie, c'est-à-dire que c'est les conceptions qu'on a maintenant de l'art qu'il a incorporé, et il dit effectivement quand l'enfant joue, c'est de l'art. Chose qu'il disait pas au départ et qui est quelque chose qui est enfin on navigue sous ce régime. Complètement maintenant. Ok, merci.
J'ai l'impression que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un endroit de parole prolongée, d'une forme d'expression du corps. Bien sûr, il y a le design des aires de jeu maintenant qui fait que le parent tolère un certain moment d'expression corporelle, de rapport corporel à l'espace, aux matières, dans un design apparemment très modelé et qui a une histoire et une historicité propre de la production industrielle de ces aires de jeu. Mais qui n'empêche que c'est un temps d'exposition de cette motricité-là très réduit, et que ben il y avait cette proposition d'exposer ce rapport moteur à l'espace plus longtemps, et que c'est juste quand même ça qui avait une puissance quand même dans l'œuvre. Enfin,
mais c'est ça toute la beauté de Palle Nielsen, mais de enfin, je pourrais recommencer sur Richard Dattner, Paul Friedberg, Xavier Delassalle, Groupe Ludique, au Japon, Mitsuru Senda, Kenshu Nishi. C'était ce moment complètement dingue à quoi j'essaie de donner forme et de comprendre dans mon travail de recherche. C'est des gens qui, d'un seul coup, se sont dit « on va faire autre chose pour les enfants ». C'est un truc complètement fou. Et qu'ils aient été artistes ou qu'ils ne se soient jamais posé la question de l'art ou quoi que ce soit, c'est pour ça que c'est une question qui est au-delà de la question de l'art. Mais c'est comment des gens qui ont inventé des nouvelles formes pour les enfants. Et comme me disait Richard Dattner, qui est un
aires de jeu historique. Pour ce que c'est en train d'adresser aux parents, en tout cas, en même temps.
Mais il ne parle même pas aux parents. Ce sont des compréhensions implicites, immédiates, du jeu de l'enfant, en disant, on va lui donner des formes qu'on n'a jamais données à un enfant. C'est un moment complètement fou. Effectivement, c'est exactement ce que tu dis. C'est ce que fait Palle Nielsen avec ses moyens. Mais c'est un truc complètement fou. Ça arrive il y a cinq années pendant lesquelles, dans le monde entier, des gens qui ne sont pas en contact au début se disent... Les théoriciens du design appellent ça le design du milieu par opposition au design de l'environnement. Et à dire, voilà, on peut donner à l'enfant d'autres formes. Qu'on a donné et qu'on donnera après, et qu'on ne donnera plus, et qu'on ne pourra plus donner. Donc effectivement, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça qui est complètement dingue, c'est qu'à un moment, on pense les formes du monde qu'on va donner à l'enfant d'une façon qu'on ne fera jamais et qu'on n'avait jamais fait auparavant. Enfin, c'est pour ça que je continue.